Lizzie présente Assassiné. De Jean-Christophe Buisson. Lu par Nicolas Justamont. Ces chefs d'État qu'on abat. À l'heure du terrorisme de masse et de la surprotection des dirigeants politiques, en particulier ceux des grandes nations qui gouvernent le monde, il y a quelques gageurs à écrire un livre sur des assassinats d'hommes et de femmes d'État avec la conviction de naviguer dans les eaux de l'actualité autant que dans celles de l'histoire. Comment comparer la pitoyable tentative de meurtre du président de la République Jacques Chirac, perpétrée le 14 juillet 2002 par Maxime Brunnery, avec celle, réussie, de l'anarchiste italien Caserio, poignardant Sadi Carnot avec son couteau aux manches rouges et noires en 1894, ou du russe blanc Gorgoulov, abattant de trois coups de pistolet automatique Paul Doumer en 1932. Et que sont les menaces de mort par Internet des talibans afghans contre le prince William d'Angleterre en regard des crimes spectaculaires qui ensanglantèrent les palais européens et la Maison-Blanche au tournant des 19e et 20e siècles? Et pourtant, il suffit d'écouter avec une attention particulière le fracas du monde pour prendre conscience de cette réalité. L'assassinat de l'homme d'État est un spectre qui hante encore les sociétés politiques contemporaines. La semaine où je rédigeais cette introduction, je relevais plus de 10 événements étayant cette évidence. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz est mitraillé, par erreur, par des soldats de sa propre armée, après que la voiture officielle banalisée dans laquelle il circulait eut refusé de s'arrêter à un barrage militaire. Au Liban, le chef des services de renseignement, Wissam al-Assam, est tué dans un attentat à la bombe qui rappelle celui dont avait été victime l'ancien premier ministre Rafik Hariri en 2005. Deux meurtres vraisemblablement ordonnés par le régime syrien de Bachar el-Assad. En Pologne, 2 ans après la mort accidentelle du président Lech Kaczynski, lors du crash de l'avion qui l'emmenait honorer la mémoire des victimes du massacre de Katyn, perpétré par les Soviétiques en 1940, un rapport est publié qui mentionne des traces de nitroglycérine sur des débris de la carlingue, relançant ainsi, avec vigueur, la thèse d'un attentat commandité par Moscou. En Guinée-Bissau, l'armée repousse l'attaque de putschistes dirigée par le capitaine Tchama, chef du commando qui avait abattu le président João Bernardo Vieira 3 ans plus tôt. En Géorgie, le président Mikhail Saakashvili, en ballottage défavorable dans les sondages pour les prochaines élections législatives, prétend détenir les preuves que Moscou avait mis sa tête à prix après la guerre russo-géorgienne de 2008. À Porto Novo, le procureur de la République du Bénin demande l'inculpation du ministre du Commerce, du médecin et de la nièce du président Thomas Boni Yayi pour avoir tenté d'empoisonner celui-ci lors d'une récente visite officielle à Bruxelles. 1 an exactement après son lynchage et sa mise à mort, de nombreux journaux français, américains et libyens s'interrogent sur les circonstances exactes de la disparition de Muammar al-Kadhafi. Les forces spéciales françaises y ont-elles, d'une manière ou d'une autre, participé? À Cuba, Fidel Castro, qu'on disait mourant, pose en photo devant une édition du jour du quotidien communiste Granma, qui ne manque pas de rappeler les dizaines de tentatives d'élimination du leader Maximo par les États-Unis depuis son accession au pouvoir en 1959. Au Congo, le président français François Hollande est reçu par son homologue Joseph Kabila, qui a succédé en 2001 à son père Laurent Désiré Kabila, après son assassinat par un de ses gardes du corps. À Ramallah, on se prépare à exhumer le corps de l'ancien président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, afin de déterminer s'il a été empoisonné Des traces de polonium ayant été détectées sur ses vêtements à sa mort, selon un documentaire diffusé sur Al Jazeera. Enfin, à l'heure de l'élection présidentielle américaine, les services de sécurité rappellent que Barack Obama reçoit environ 3 menaces de mort, sérieuses et crédibles, par jour. Comment les hommes politiques vivent-ils avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, couronnée ou non? Y pensent-ils parfois, souvent, toujours? Ont-ils peur? En éprouvent-ils de la fierté? Dans quelle mesure mourir assassiné est-il, pour eux, un brevet d'immortalité à l'égal de celui qu'on accorde à un romancier ou à un poète suicidé ou disparu tragiquement? Nimier, Drieux, La Rochelle, Garcia Lorca, Apollinaire. En décembre 1996, j'avais interviewé pour le Figaro magazine Zoran Djindjic, l'un des 3 chefs de l'opposition démocratique serbe manifestant quotidiennement contre le régime autoritaire de Slobodan Milošević. Philosophe de formation, cet ancien élève de Jürgen Habermas m'avait répondu en substance qu'il se savait menacé de mort. L'élimination accidentelle d'opposants était une des spécialités du régime yougoslave communiste. Mais qu'il ne savait pas s'il devait la craindre ou la souhaiter. Selon lui, en effet, seul un événement de cette ampleur forcerait le peuple serbe à se réveiller de son cauchemar et à chasser ses démons nationaux communistes et militaristes. Il m'avait alors parlé d'une nouvelle de l'écrivain Ivo Andrić, dont le héros exposait qu'il fallait de la haine et de la colère, sentiment détestable pour faire naître l'espoir. La haine, parce qu'elle donne de la force. La colère, parce qu'elle pousse à l'action. J'avais trouvé sa réponse un peu crâne et pompeuse, et la chute pacifique de Milošević en octobre 2000, après un mini-putsch populaire auquel j'avais assisté de près à Belgrade, m'avait confirmé dans un premier temps dans cette impression. Jusqu'au 12 mars 2003. Ce jour-là, Zoran Djindjic, devenu le premier ministre réformateur et pro-européen d'une Serbie démocratique, mais englué dans les marécages post-communistes, était abattu d'une balle en plein cœur tirée par un sniper. Un officier de police du nom de Zvezdan Jovanović, sans doute stipendié par un groupe mafieux lié à l'ancien président. Et ce fut effectivement cet événement-là qui marqua, avec plus de force que la fin politique de Milošević, le réveil des consciences serbes. À l'image des grandes manifestations anti-ETA du peuple basque, des centaines de milliers de Serbes défilèrent devant le cercueil de Djindjic, se jurant d'en finir enfin avec cette violence qui continuait à imprégner, peu ou prou, leur pays, ruinant ses chances d'être un jour réintégré au sein du Conseil européen des nations. C'est en repensant à cette rencontre avec un futur homme d'État assassiné que j'ai eu l'idée de ce livre. Et aussi pour donner, pour une fois, raison à Karl Marx et tort au premier ministre libéral britannique Benjamin Disraeli. Le premier estimait que la violence est la sage-femme de l'histoire. C'est une évidence. Même si l'idée déplaît aux agents de circulation de la pensée unique démocratique, adepte d'une philosophie béate de l'histoire qui poursuit le bonheur par sa foi dans le progrès et la bonté supposée de la nature humaine. Or, c'est bel et bien par la violence, non par les élections ou encore moins par de pieuses incantations à la tribune de l'ONU ou dans les colonnes des journaux pour réclamer un meilleur respect des droits de l'homme sur la planète, hier à Berlin sous Hitler, à Moscou sous Staline ou à Buenos Aires sous Videla, aujourd'hui à Damas, Pékin, Pyongyang, La Havane, Téhéran, Gaborone, Minsk ou Grozny. Qu'un tyran, supposé ou réel, peut être mis hors d'état de nuire. Disraeli, lui, au lendemain de l'assassinat du président Lincoln en avril 1865, eut cette formule hasardeuse. Aucun assassinat n'a jamais changé l'histoire du monde. 1000 exemples dans l'histoire la contredisent. Pour appuyer concrètement la thèse de l'un et faire mentir l'autre, j'ai choisi de raconter 16 assassinats d'hommes et de femmes. Pourquoi César et non Caligula? Pourquoi Henri III et non Henri IV? Pourquoi pas Gustave III de Suède, Alexandre de Yougoslavie, le Perse Xerxès Ier, John Kennedy, l'Irlandais Michael Collins, le pape Clément II, Marie-Antoinette, Ramsès III, l'empereur Zoulou Chaka, le roi d'Irak Faisal II, Benazir Bhutto, Bachir Gemayel, Henri VI d'Angleterre, Walter Asno ou Itzhak Rabin. Pourquoi trois Habsbourg, deux Romanov et aucun Bourbon? Pourquoi seulement deux femmes et tant d'Européens? Toutes ces questions sont recevables. L'histoire n'est pas une science exacte. Obéir à un seul critère, les assassinats qui ont profondément changé la face du monde, les plus spectaculaires, les plus ancrés dans la mémoire collective, relevaient de l'imposture. Respecter un équilibre parfait de l'équation insoluble. En choisissant les uns plutôt que les autres, j'ai tenté d'évoquer tous les types d'assassinats en montrant en même temps l'extrême variété des situations, mais aussi certaines constantes. A priori, rien de semblable entre le coup de poignard mortel du moine dominicain Jacques Clément sur Henri III en 1589 et les islamistes égyptiens mitraillant le président Sadat lors d'un défilé militaire en 1981. Pourtant, une flamme commune les animait. Depuis l'Antiquité, à peu d'exceptions près, esprit dérangé, vengeance personnelle, comme cet agent de change anglais tuant le premier ministre Spencer Perceval, car il le tenait pour responsable de sa faillite, ou démarche varolienne à l'image de Siran Siran, l'assassin de Robert Kennedy, s'exclamant « Ils peuvent me gazer, mais je suis célèbre, j'ai réussi en un jour ce qui a pris une vie entière à Robert Kennedy ». C'est bien la même motivation qui arme le bras des meurtriers de chefs d'État. En finir avec un régime jugé illégitime et lui-même criminel, incarné par un individu qu'ils haïssent. Selon les époques, les lieux et les circonstances, le geste libérateur s'accomplira au nom de la République, de la Sainte-Croix, d'Allah, de la Révolution, du roi, de la nation. Toujours avec la conviction que ce combat se fait pour une juste cause. Les redoutables achachines ismaéliens qui ont donné naissance au mot assassin tuaient croisés chrétiens et musulmans sunnites pour suivre les préceptes philosophiques et religieux de leur chef Hassan ibn al-Sabah, le vieux de la montagne, qui avait théorisé la notion de meurtre sélectif. Les tyrannicides du Moyen-Âge et de la Renaissance agissaient en se réclamant du philosophe scolastique français Jean de Salisbury. Entre un tyran et un prince, il y a cette différence, subtile mais fondamentale, que le second respecte la loi. Du théologien saint Thomas d'Aquin, le devoir du juste est de s'opposer au tyran. Ou du père du libéralisme politique, l'anglais John Locke, quiconque utilise la force sans le droit se place lui-même en état de guerre et chacun a le droit de se défendre et de résister à l'agresseur. Avec la terreur, la Révolution française banalisa le meurtre contre les ennemis de l'intérieur, tout en le justifiant au nom de la vertu, une idée neuve en Europe, Saint-Just. Au XIXe siècle, âge d'or du meurtre politique, on ne saurait négliger, outre l'influence croissante des pensées anarchistes et socialistes, d'une part, le développement du sentiment nationaliste, d'autre part, le poids du romantisme allemand. Dans son drame en vers, Guillaume Tell, 1804, relatant la rébellion des paysans suisses au XIVe siècle contre les baillis Habsbourg, Schiller en appelait expressément au droit naturel pour justifier le meurtre. Non, il y a une borne à la tyrannie. Quand l'opprimé ne peut obtenir justice nulle part, quand le fardeau devient insupportable, alors, d'un cœur confiant, il tend les mains vers le ciel pour attirer à lui ses droits éternels, inscrits là-haut, inaliénables, inaltérables comme les astres mêmes. L'ancien état de nature est ainsi restauré, où l'homme se dresse en face de l'homme et n'a d'autre recours, quand tout s'est révélé inefficace, que celui de son épée. À la fin du poème, le meurtre du bailli Gessler, abattu d'une flèche par Guillaume Tell, sonnait le déclenchement de la révolte des cantons suisses contre l'oppresseur autrichien, prélude à l'indépendance du pays. Carbonari italien, populiste russe, insurgé hongrois de 1848 et rebelle irlandais hostile à la couronne d'Angleterre, saurait s'en souvenir. Le pire danger qui menace l'historien est de juger les faits de manière anachronique. Nous savons aujourd'hui que l'exécution des Romanov a favorisé l'instauration d'un régime mille fois plus criminel que le tsarisme. Nous savons aujourd'hui que l'élimination de Ngo Dinh par la CIA n'a aucunement favorisé une réforme d'un Sud-Vietnam américanisé et corrompu, ni ralenti le processus de guerre et, partant, la mise en place d'un régime communiste dans toute la péninsule indochinoise. Nous savons aujourd'hui que nombre d'assassinats ont eu un effet parfaitement contraire à celui désiré par leurs auteurs. La République n'a pas été sauvée par le meurtre de César, il a même accéléré sa chute. L'Inde ne s'est pas déchirée après l'attentat contre Indira Gandhi par son garde du corps sikh, son unité a même été renforcée. Les nazis autrichiens n'ont pas pris le pouvoir à Vienne après avoir abattu le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss, comme la mort d'Alexandre II n'a pas amélioré le sort de la condition paysanne russe, ni engendré une libéralisation du régime. Son fils et successeur, Alexandre III, mit même fin à la politique de démocratisation entamée par le tsar libérateur qui avait aboli le servage. Pour autant, cela ne nous autorise pas à douter de la sincérité de ceux qui avaient cru le contraire au moment de commettre leur acte. Je suis historien de formation, mais journaliste de métier. Ce livre d'histoire est avant tout un livre d'histoire. J'ai voulu raconter, avec le plus de précision possible, les mois, les semaines, les jours, les heures et même les secondes qui ont précédé les 16 événements tragiques que j'ai choisi de décrire. Si j'évoque souvent en parallèle le destin du bourreau et de la victime jusqu'à leur rencontre fatale, j'ai parfois insisté à dessein sur le parcours de celui qu'on jette généralement dans les oubliettes de l'histoire, au prétexte d'un certain manichéisme moral ou de cette empathie rétrospective pour les victimes propre à nos sociétés contemporaines qui refusent d'admettre que la violence est consubstantielle à l'homme et le conflit nécessaire au bon fonctionnement d'un régime politique, y compris démocratique. Oui, l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes. Et l'histoire par essence tragique. On n'en finira jamais de mesurer les détestables conséquences de la célèbre formule de l'auteur de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, Édouard Gibbon. Le meurtre est la dernière ressource des lâches. Qui, aujourd'hui, connaît, ne serait-ce que le nom de l'assassin de Sissi ou de celui d'Indira Gandhi, deux femmes propulsées au rang d'icônes par leur seule fin tragique? De même, dans le chapitre le plus développé du livre, je me suis intéressé de très près à la formation et à la vie de ceux qui, en 1914, tuèrent l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, prélude à la guerre civile européenne, chère à Ernst Nolte. Souvent présentés avec mépris comme de vulgaires spadassins chanceux qui rêvaient de grande Serbie, les sept jeunes garçons, dont cinq mineurs et un musulman, qui le sait, étaient moins de farouches nationalistes que des adolescents désireux de chasser l'occupant autrichien de Bosnie et de mettre fin au régime colonialiste écrasant ses habitants serbes, croates, juifs et musulmans. Socialistes révolutionnaires pour la moitié d'entre eux, ils lisaient les mêmes livres que les assassins d'Alexandre II et leur chef était un ami de Léon Trotsky. On est loin, on le voit, de l'image que diffusent paresseusement d'eux les manuels scolaires. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas de ma part de bienveillance particulière pour les assassins. Juste le souci comme le suggérait l'historien Lucien Febvre, d'accomplir un certain effort affectif pour comprendre la psychologie de ceux qu'on met en scène. Eussent-ils le mauvais rôle ? Au terme de ce livre, pas question de tirer quelques leçons politiques ou, pis, morales. Tout juste avancerai-je ce sentiment que le temps où l'on tuait un homme d'État pour de pures motivations politiques, avec l'intention de renverser un régime et de s'emparer éventuellement du pouvoir, est bien éloigné. Dans ce domaine aussi, comme partout, l'ivresse de la notoriété inhérente à la société de l'image a bouleversé les attitudes et les mentalités. S'il frappe toujours les figures de proue, le meurtre de spectacle, enfant de la société du même nom, vise autant à être vu que connu. Ainsi, le terrorisme de masse, aveugle, a-t-il pu se substituer politiquement à l'acte individuel tel qu'il se pratiquait pendant des siècles ? Oussama Ben Laden, en s'attaquant autour du World Trade Center, a certainement plus frappé les esprits et changé la face du monde que Lee Harvey Oswald en abattant John Kennedy. Et nos mémoires se souviennent plus distinctement des assassinats de Sadat ou de Ceausescu, vus à la télé, que de ceux, pourtant tout aussi spectaculaires, d'Indira Gandhi ou du couple royal népalais en 2001. Loin des caméras, le nez dans les archives, parfois inédites en France, et des centaines d'ouvrages d'historiens, de plus tard qu'à Orlando Figes, ou de journalistes, de John Reed à Tim Weiner, la rédaction de ce livre m'a souvent plongé dans la curieuse impression de retrouver, à différentes époques, sur des continents distincts, dans des circonstances très diverses, de singuliers points communs. La quasi-totalité des assassinats que j'évoque n'ont réussi que grâce à la trahison de proches, César, Ceausescu, Ziem, ou à la défaillance coupable de gardes du corps ou de services de sécurité incompétents, dépassés ou médiocres, Henri III, Lincoln, François Ferdinand. Les deux sont naturellement compatibles, comme par exemple pour Indira Gandhi. Il est aussi frappant de noter combien les grands hommes d'État savent tirer leur révérence. Qu'ils soient empereurs romains, maîtres du monde, chanceliers nationalistes autrichiens ou leaders africains tiers-mondistes, leur dignité et leur courage dans l'agonie ou la mort ne laissent pas de stupéfier. L'assassinat ne saurait être seul considéré comme un des beaux-arts, cher Thomas de Quincy, le savoir mourir assassiné aussi. Enfin, comment ne pas relever que tous ces hommes et femmes d'État, dont je trace le destin, auront tous, sans exception, exprimé leur certitude qu'une fin tragique les attendait bientôt, avec effroi, parfois. Un mélange de crainte et d'indifférence, réelle ou feinte, souvent. Et même, chez certains, avec quelque chose qui ressemble à de l'impatience et de la fierté. Comme s'ils pressentaient qu'ils seraient, aux yeux du monde et de l'histoire, plus grands morts que vivants. C'est sans doute cela que voulait me dire Zoran Djindjic à Belgrade, ce jour enneigé de décembre 1996, 6 ans et 3 mois avant son assassinat. Paris, 5 novembre 2012.